L'Afrique dans tous ses états. Une émission réalisée et produite par Radio FM+.
Bonjour Marie-Claude Siakezak.
Bonjour Guylaine.
Et bonjour à Patrick Darlot. On va le garder, hein. On va le garder.
Ben oui, parce que l'autre jour, il s'est contenté de nous faire partir du Burkina Faso, du fin fond du Burkina Faso. On a fait un petit bond, on ne sait pas comment, on est arrivé au Pérou, donc on a traversé quand même l'Atlantique, entre autres. Et il nous a raconté des histoires assez extraordinaires de rencontres avec des descendants d'esclaves africains, etc., qui avaient renoué avec les musiques et tout ça. Et là, aujourd'hui, on attend avec impatience parce qu'apparemment...
On était au départ négociation du festival
et
Montpellier Danse.
Et apparemment, voilà, on va arriver à Montpellier, je ne sais pas, avec tout ça, avec toute cette histoire. On essaye de rassembler nos idées, quoi. Merci Patrick de nous éclairer.
Moi aussi, d'ailleurs, parce que bon, me retrouvant, sortant du bureau de Jean-Paul Pontanari avec un chèque et la nécessité d'organiser une venue de masque... Je me trouve dans une situation dans laquelle je ne peux pas savoir si la réponse sera positive ou négative. Donc je repars sur le Burkina et je me retrouve donc en famille, entre guillemets, c'est-à-dire avec le chef des masques de Boromo et avec les vieux. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Ben, on retourne au sanctuaire de la Terre, on fait toute une série de sacrifices, de discussions, d'intercessions avec les différents génies de l'histoire. Et puis, d'une manière absolument tranquille, le chef de terre fait dire par le chef des masques, mais où est la difficulté ? De toute manière, qu'on vienne danser chez toi, de toute manière, c'est une maison du village, donc il n'y a aucune difficulté, du moment qu'on vienne danser chez toi. Ah oui, si tu veux qu'à plus on danse chez tes amis, on peut danser chez tes amis. Mais de toute manière, venir danser chez toi, il n'y a aucune difficulté. Bon.
Alors moi, quand même, une petite interruption pour dire que j'ai été absolument ébahie, époustouflée, ahurie d'apprendre que les masques allaient venir. Parce que quand même, quand on connaît le côté sacré et secret des danses, on n'est pas initié, on peut pas... Si on n'est pas initié, on peut pas savoir. On les voit quand ils sortent quelquefois, mais c'est tout. Et j'avoue que ça m'a absolument époustouflée. Voilà. Donc, ben, félicitations à Patrick, ben, qui l'a pas fait vraiment... exprès, mais il l'a fait quand même.
Voilà, je dirais que moi, j'y suis pour rien dans cette histoire. Hein. C'est assez ça qui est sidérant. Dans
je n'y suis que
pour la partie matérielle. Mais pour la partie, on pourrait dire, spirituelle, religieuse, d'échange culturel ou autre, visiblement, le système m'échappe complètement. Je me contente d'assurer ce que je peux au fur et à mesure. Alors bon, l'histoire devient délirante parce qu'effectivement, on est dans une interaction entre une culture africaine d'un côté, sans aucune liaison avec la culture occidentale, et puis une culture occidentale de l'autre. Donc effectivement, il y a une série de gags. Je me retrouve dans une situation où je retourne à Montpellier voir Montanari en disant « Ok, ça marche, ils ont accepté ». Visiblement, entre-temps, une partie de l'équipe de Montpellier Danse se gratte le crâne en disant peut-être quand même là, on a pris un risque un peu délirant. ils ne sont pas sceptiques, mais ils sont franchement inquiets du côté administratif et financier. À ma plus grande surprise, Montanari se contente de dire à son staff laissez-le, de toute manière, il est obligé de voler. Donc, je suis dans une situation où quelqu'un me fait humainement une confiance totale, exactement comme les Africains, et que dans les deux groupes, les gens qui sont autour sont sceptiques sur l'organisation de ça. J'ai une chance importante qui ne serait plus faisable actuellement, c'est que la totalité de la structure de l'ambassade de France, en fin de compte, trouve le projet intéressant et se met, non pas à mon service, mais à faciliter au maximum les choses. Aussi bien le centre culturel français que la consul et l'ambassadeur. On verra d'ailleurs que la consul a un rôle très important à un moment de l'histoire. Oui. Et donc, je me mets en place devant cette histoire de fou, c'est qu'il faut organiser ça. Alors, je suis dans une situation dans laquelle je ne veux pas me faire piéger comme blanc. Donc, je suis obligé de déléguer un certain nombre d'éléments africains aux Africains en faisant une confiance totale. Avec des ambiguïtés, parce que je connais l'ambiguïté d'un certain nombre de gens qui sont à cheval sur les deux cultures. principalement de Burkinabés qui se sont occidentalisés et qui voient qu'ils vont pouvoir manger en cours de route. Alors, oui. Je sais très bien qu'il faudra les laisser manger, mais qu'en même temps, je vais me faire piéger à être celui que l'on, quelque sorte, je sais pas comment dire, à qui on demande un passe-droit permanent. On se met d'accord sur le fait que ce seront les Africains eux-mêmes qui choisiront les gens qui vont venir. J'impose simplement le fait que ça ne peut pas dépasser 18 personnes. J'impose sur le fait qu'il y a effectivement l'assistant de Jean-Pierre Jacob, qui est l'ethnologue qui travaille sur la zone, qui est de cette ethnie-là, puisse venir. Mais comme, en fin de compte, j'ai une confiance mitigée sur sa capacité à manger, j'impose, en fin de compte, un de mes amis, Théodule Zoma, comme étant mon intermédiaire. L'avantage, c'est que Théo, lui, parle toutes les langues. Donc, il saura comprendre et il saura me mettre à l'abri d'un certain nombre de coups fourrés dans cette histoire-là. Mais moi, je me trouve dans une situation dans laquelle je sois obligé de revenir plusieurs fois de suite parce que ces gens doivent venir en Europe, mais ils n'existent pas au niveau administratif. Certes, pratiquement aucun n'ont quitté le village, aucun n'a de carte d'identité, aucun n'a de passeport, aucun n'a pris l'avion. Au niveau sanitaire, j'ignore dans quel état ils sont. Entre autres, à l'époque, je ne sais pas si certains sont sidérés ou pas. Donc, il va falloir qu'on balise et qu'on n'improvise pas. Qu'on soit capable d'improviser en fonction de ce qui va se passer, mais qu'on ait balisé les éléments pour avoir toujours un filet de sécurité quelque part pour s'y retrouver. Finalement, ça se passe bien. Finalement, je laisse les uns et les autres négocier comment il faut graisser pour que ça fonctionne bien, c'est-à-dire pour récupérer les extraits de naissance. C'est des gens qui sont nés verts. Alors, ils ne sont pas nés verts avec un nez vert, hein, mais ils sont nés. Ils ont pas, leur date de naissance ne correspond pas à leur année de naissance. Ils ont souvent 5-7 ans de décalage. On ne les déclare qu'à partir du moment où ils sont survivants. C'est-à-dire un quart à peu près des naissances. Donc, tout devient épique comme histoire. Y compris des délires fous comme les billets d'avion. Je finis par négocier des billets d'avion entre Sabena et Air France. Et à un moment donné, Sabena est franchement moins cher qu'Air France.
Oui,
donc, je fais une erreur absolument terrible. Par politesse, à partir du moment où j'ai su que j'allais faire le contrat avec Sabena, et que j'avais donc une préinscription faite, mais que je n'avais pas payé, j'annule les billets d'avion retenu sur Air France. Ça, c'est une erreur dramatique. C'est un truc qu'il ne faut jamais faire. Il faut toujours attendre que ça tombe au niveau des... Les gars de Sabena se rendent compte à ce moment-là que j'ai annulé les billets sur Air France, parce qu'eux, ils ont accès à tous les trucs. Donc, on lui dit, mes billets de Sabena disparaissent. Ils ne réapparaîtront qu'avec une surprime de 15 à 20% que je paye entièrement en liquide.
Il n'y a pas qu'au Burkina qu'on cherche à manger quand même.
Ah ben voilà, Patrick. Oui. Donc je me trouve dans la situation étonnante. Non, mais c'est les Burkinabés de Sabena de Ouaga qui m'ont planté les billets d'avion.
Justement.
Et donc mes billets d'avion reviennent qu'à partir du moment où, en fin de compte, je rajoute 20% sur le prix des billets d'avion directement en argent liquide de la main à la main à Ouaga. Bon, je veux dire que j'ai quand même fait deux nuits blanches le temps d'arriver à comprendre comment ça se passe.
C'est le système qu'il faut accepter ou pas.
Sinon, on peut, pareil pour les passeports et pour le reste. Bon, je me retrouve avec le fait que la consul étant extraordinaire, elle se débrouille pour m'obtenir tous les visas. C'était beaucoup moins compliqué que maintenant. Elle se débrouille pour que tous les éléments soient en place. J'ai son numéro de personnel direct, etc., etc. Et je me trouve à la situation où on arrive à négocier les masques, on arrive à négocier à travers Sabena, pas des conteneurs, mais tout au moins un ensemble de bagages donnés sur Swissair fret partant 5 jours avant l'arrivée des masques. Enfin, on arrive à organiser tout au fur et à mesure. J'ai quand même pris une bonne dose de cheveux blancs pendant cette histoire, mais le système fonctionne. Tous les génies ont été bons, tous les sacrifices ont été bons, ça fonctionne. Donc on est à peu près à une semaine du voyage. Je viens de récupérer le deuxième chèque de Montanari. Je me suis arrangé avec des copains pour qu'ils soient producteurs, parce que juridiquement, je n'avais pas moi ce qu'il fallait. Ok, tout paraît en place. J'ai un coup de téléphone d'Issouf qui vient de voir l'avion de Swissair décoller depuis Ouaga. Je sais que c'est un Boeing 747, je sais qu'il s'est swisté, etc. Je prends la voiture, j'arrive à Marseille, je suis sur le tarmac de Marseille et j'attends de voir l'arrivée de l'avion de Swissair pour aller en douane pour dédouaner les masques. Il est hors de question de laisser les masques, ne serait-ce qu'une nuit, à Marseille. Il faut penser qu'on est tous les conteneurs sont scellés avec des cerclages métalliques. Il faut penser qu'on est dans du 35 000 euros de masques en marché noir. Mmh. On est dans des problèmes de tradition, d'éléments rituels. On est dans une situation où, lorsque l'avion atterri, je vais voir les deux transitaires en douane dont j'ai eu les contacts pour discuter avec eux. Je leur signale l'avion, je leur indique l'avion sur le tarmac. Ils envoient quelqu'un pour vérifier à la sortie, pour ramener dans le hangar les éléments correspondants. Le problème, c'est comment on dédouane. J'ai pas pensé à ça, moi. C'est pas un problème d'argent, on se démerdera. Mais on met une heure et quart à finir par dédouaner l'ensemble des masses sous forme de costumes de théâtre. Et grâce à ça, je paye rien. Mais ces histoires de fous dans lesquelles, à chaque fois, à chaque fois que j'ai prévu un problème, c'est pas le problème qui apparaît, c'est un autre. Et donc, je me retrouve au fait que à 20h, les masques ont quitté Ouaga à 10h du matin. À 20h, ils sont fermés à clé dans le garage de Denise à Nîmes. Et là, je respire parce que c'était l'une des choses les plus difficiles. À partir de ce moment-là, il y aura toujours quelqu'un qui dormira avec les masques. Dans tous les éléments, ce sera nous, mais personne ne sait que c'est dans le garage de Denise. Mmh. Et après ça, il y aura toujours un des Africains qui dormira avec les masques. C'est-à-dire qu'il dormira dans la même pièce, dans les mêmes conteneurs, qui, lorsqu'on sera en tournée, dormira dans le camion. Mmh. C'est entièrement sous leur responsabilité. Et donc, c'est à partir de là. Eux, ils seront confiants. Ils disent, mais il n'y a pas de problème, les génies, on a fait les sacrifices. Il n'y aura aucune difficulté dessus. Moi, je ne pense pas toujours pareil. Okay. Donc, on se retrouve dans cette histoire. Et donc, 5 jours après, moi, je suis dans le bus 9 places. Il y a donc 2 bus 9 places, un camion, une voiture avec remorque. Et on part sur Marseille pour récupérer les Africains. Les Africains sont donc partis la veille de Ouaga, dans la nuit, sont en transit à Bruxelles. Et puis, on doit les récupérer, nous, à Marseille, pour les ramener sur Montpellier, où tout le monde, l'association des Burkinabés de Montpellier les attend. Enfin bon, tout le démarrage de l'histoire se fait. Sur l'autoroute, alors je me suis acheté un téléphone portable. Et Denise aussi, parce que ça, c'est les premiers téléphones portables. Et tu dis, attendez, sans téléphone portable, on ne s'en sortira pas. Et sur mon téléphone portable, il est 11h du matin, on doit les récupérer à midi, je suis sur l'autoroute en direction de Marseille, ma fille est à côté de moi, avec le téléphone portable, coup de téléphone de Théo qui m'explique qu'en fin de compte, ils sont à Bruxelles et qu'on leur interdit de rentrer en Europe parce qu'ils ont bien les visas, mais ils n'ont pas pris le contrat comme quoi ils sont effectivement invités au festival de Montpellier Danse et que la douane européenne, donc la douane belge dans ce cas-là, leur a interdit de venir et qu'ils sont en zone de rétention. Bon, je me dis, les génies sont avec nous, pas de problème. J'ai dit, écoute, c'est pas difficile, on continue, vous restez tranquille. Je vous rappelle dans une demi-heure quand je suis à Marseille, à l'aéroport. On s'arrête et moi, je tourne en rond et je me dis, comment je vais faire? On est un samedi. L'ambassade de France est fermée à midi. Et il est midi moins 5. Et tout d'un coup, je me dis, mais au juste, on a une heure de décalage horaire, donc il n'est qu'11h. Donc la consule est toujours dans son bureau. Je téléphone à la consule, et je lui explique l'histoire. Elle dit, mais il n'y a pas de problème, appelez Bruxelles, donnez-moi le numéro de fax du service de la police des frontières, et je leur faxe le double du contrat que j'ai moi dans les archives de visa. Alors bon, un peu compliqué, on y arrive, ce truc. Elle dit, mais vous me faites rappeler, de toute manière, j'attends. Une heure après, on a le contact et Théo me rappelle à nouveau pour me dire que la police des frontières leur a donné leur accord de pouvoir sortir de la zone de rétention et qu'ils sont dans l'aéroport. Le problème, c'est que leur avion est parti.
Et oui.
Donc, il faut attendre l'avion de 19h et on arrive à négocier par le fait qu'effectivement, c'était pas de regret pour Sabena pour que... Et la chance, c'est qu'il y avait encore assez de place dans l'avion du soir. Sinon, ça aurait été l'avion le lendemain matin, l'avion du soir. Donc, je récupère à 19h, complètement KO. n'ayant pas bu et pas mangé depuis la sortie de l'avion, de, à part si à l'espèce de bout de sirop qu'on leur donne dans, dans le trajet Bruxelles-Marseille. Donc, on leur donne à manger à l'aéroport. Il m'explique qu'effectivement, il s'était cassé la gueule dans les escalators parce que, bien sûr, il n'avait jamais vu ça. Quoi. Il n'a jamais eu l'avion. J'avais expliqué que l'avion, c'était comme un gros bus. Et puis voilà, OK, d'accord. Donc, ça allait. Mais bon, ils étaient tous excités comme pas possible. Et donc, on a refait à nouveau tout un repas du soir avec les Burkinabés de Montpellier.
Et puis, il ne fallait pas leur en promettre. Hein.
Ah non, non. Et là, je veux dire, ils ont dévalisé entièrement le truc qu'ils avaient. Voilà. Et après, on a été dormir à l'école d'agriculture de Montpellier, où en fin de compte, ils nous avaient ouvert la pension, etc. Et le lendemain matin, on est allés tous ensemble dans la cour de Montpellier Danse, taper le tambour pour indiquer au directeur de Montpellier Danse eh ben, qu'on était arrivé. Et là, on s'est retrouvé totalement en Afrique. Et donc, en fait, on a négocié avec Montaneri que, ouais, faut être clair, il ne pouvait danser qu'à partir du moment où il dansait chez moi. Mmh. On est arrivé à négocier avec la tradition qu'il pouvait d'abord danser à Montpellier avant de danser chez moi. Parce que simplement, dans la tradition, on peut danser chez ses cousins à partir du moment où on a dansé à la maison. Mmh. Donc, on a pu inverser ça parce que les génies ont été d'accord. Que Montaneri a effectivement accepté qu'on fasse plusieurs sorties en Cévennes, du moment qu'on était à plus de 50 km, à plus d'heures de route de Montpellier, parce qu'ils avaient l'exclusivité. Vu ce qu'ils avaient dépensé, c'était quand même logique qu'ils aient
l'exclusivité. Montaneri a un bon génie, on va dire.
Ah oui, oui. Non, mais pour moi, c'est un personnage hors du commun au niveau de la capacité humaine d'échange. C'est-à-dire que s'il réussit son festival, c'est parce que d'abord, c'est quelqu'un qui a un charisme humain époustouflant. Et moi, je l'ai revu il n'y a pas très longtemps en lui apportant l'album des funérailles du chef des masques qui était donc venu. Mmh. Et je veux dire, j'ai eu la même relation humaine que j'avais eue 15 ans auparavant. Mmh. Voilà, on est dans l'ordre du génie aussi à ce niveau-là. Mmh. Et donc là, on s'est trouvé au fait que ces gens ont donc dansé à Montpellier Danse deux soirées, ont dansé... dans le village de Saint-Bresson, dans lequel j'étais premier adjoint à ce moment-là, chez moi, dans ma maison.
Dans les Cévennes.
Dans les Cévennes. On a fait l'ensemble des sacrifices nécessaires dans ma maison, j'ai encore les hôtels, et on a fait l'ensemble des sacrifices nécessaires dans le cloître de Montpellier.
Et je crois que ça n'a pas été simple.
Alors, ça n'a pas été simple, parce que...
Je peux savoir.
Parce qu'il était hors de question de faire autrement qu'une tradition. Et
tout à
en
fait.
En plus, nous, on a commencé la tradition des sacrifices nécessaires vers 15h. Mmh. Et le spectacle était à 19h. Et devait finir vers 21h30. Et le problème, c'est qu'à 19h, nous, on tapait le tambour et on faisait les sacrifices et les premières danses depuis le début de l'après-midi. Mmh. Et les spectateurs qui attendaient dehors, parce qu'en fin de compte, c'était dans le cloître, debout ou assis sur des tapis, les gens ne comprenaient pas, parce qu'ils disaient « Mais attendez, on ne peut pas rentrer, et le spectacle a commencé. » Non, parce qu'on était dans une tradition. Et après ça, on a fait la fin des traditions des rituels, qui étaient les rituels animistes, complètement.
Mmh,
et on a fait passer les masques de l'état de spiritualité directe à tradition du marché. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on est passé en masque de divertissement. Mmh. Et donc, ces masques de divertissement pouvaient être ouverts au public. Et donc, on a ouvert les portes exactement comme on fait des masques de marché. Et les gens sont venus, et il y a eu, je crois, dans les 3000 personnes sur les deux soirées. Donc, on a vraiment eu un ensemble qui était extrêmement proche de la tradition. Y compris, d'ailleurs, une grève des griots en milieu du spectacle, parce qu'ils n'avaient pas leur dose d'alcool. Donc, il a fallu que je me démerde pour arriver à trouver, à 11h du soir, quelqu'un qui allait chercher du whisky dans une des épiceries de nuit de Montpellier, pour les ramener, avec les profitant de la pause. Pour ça. Bon, les griots ont un peu triché dans l'histoire quand même. Ils se sont fait assez bien remonter les bretelles le lendemain par chef des masques. Par Montaneri aussi, qui m'a un peu convoqué en disant « Dites donc, là, ils n'avaient pas un peu bu, vos gars, quand même, là, dans cette histoire-là. » Mais bon, ça s'est bien passé. Le lendemain, ça a été assez extraordinaire, y compris avec l'offrande d'un coq à Montaneri pour le remercier et l'offrande de pigeons à Georges Frêche pour le remercier d'avoir été là. Bon, voilà. J'avoue que moi, dans cette histoire, j'ai vécu quelque chose dans lequel je ne sais absolument pas ce que j'ai fait. Je suis intervenu dans cette histoire-là, et je suis intervenu en permanence dans différentes soirées, et je ne sais rien de ce qui s'est passé. C'est-à-dire que c'était pas moi, c'était mon moi intérieur qui fonctionnait. Je ne sais pas pourquoi je prenais des décisions. Je ne sais pas pourquoi ça se passait bien. Voilà, ça fait partie des magies de vie dans lesquelles on est effectivement dans une aventure et de toute manière, il faut assurer.
Oui, mais en même temps, c'est un peu le réajustement du fait de se connaître, de se faire confiance, d'avoir ce lien déjà et d'être un peu entre ces deux cultures
qui fait
de la différence. Voilà, quoi, c'est tout. Oui. Tout simplement, parce que bon, il y a une confiance absolue de tout le monde. Montanari pour commencer, les danseurs de masque pour continuer, les vieux, etc., les féticheurs.
Et je veux dire, j'étais sûr que j'allais y arriver, même si je me suis trouvé dans une situation absolument atroce au niveau de l'estomac, j'étais sûr d'y arriver. Et même dans les différentes circonstances, on s'est quand même retrouvé à danser en vallée française. Alors, le Burkina, c'est 100 mètres d'altitude avec le sommet principal à 200 mètres. D'accord. Donc, quand on a les Africains dans un minibus et qu'on descend des routes Cévenoles, je pense que ils ont incrusté leurs ongles dans les fauteuils du bus. Hein. C'était absolument ahurissant pour eux. C'était une découverte incroyable. Et il y avait un personnage qui était extrêmement intéressant dans l'aventure. C'était non seulement Marie-Claude, Irénée, etc., qui étaient des Africains qui venaient chez moi dans cette histoire, mais c'était Louis Sandoval, le directeur artistique chorégraphe de Millenio, qui en fin de compte, lui, était invité en tant que chorégraphe invité à Montpellier Danse, et qui donc est le seul qui a vu les masques danser réellement. Mm. Et lorsqu'il était chez moi, je me suis rendu compte qu'il n'était pas bien. Et je vais le voir, moi ma grande inquiétude c'est que l'un ou l'autre soit malade. On avait déjà eu quelqu'un qui avait eu un des Africains danseurs qui avait mal parlé et qui s'était retrouvé avec des difficultés physiques, ça avait été une histoire de fou. Et Sandoval, visiblement, il n'allait pas bien. Et je vais le voir et je lui dis, mais Lucho, que passo? Il me dit, je ne suis pas un noir, je suis un blanc. C'est-à-dire que pour lui, son monde s'écroulait. Il venait là revendicatif de la culture noire, et se trouvant sur ma terrasse avec des gens qui avaient tapé le tambour, plutôt le tambour rituel que le djembé, toute la nuit, danser, etc. Lui avait dansé aussi, hein, et les Africains avaient été absolument époustouflés par sa prestation.
C'est un danseur exceptionnel, oui.
Et en plus, qui est une mélange de danse moderne et de danse traditionnelle, avec Palenque, avec toute une série de travail avec des bambous. On avait été chercher les bambous à la bambouserie, enfin, d'Anduze. Enfin, tout avait été un délire où tout le monde avait fait un effort pour que ça se passe bien. Enfin, même pas pour que ça se passe bien. Tout le monde trouvait l'aventure tellement et se mettait dedans. Quoi. Donc ça allait tout seul. Et ça, ces éléments-là, fait qu'après ça, je me suis retrouvé effectivement à d'autres aventures successives, entre autres au retour à la fois en Afrique et au retour au Pérou, avec entre autres, en point final, on peut dire, la sœur de Lucho, qui ne me connaissait pas. Donc Lucho dit, je viens venir déjeuner avec mon ami Patrick. Elle connaissait toute l'aventure, et avec les Africains, elle reste. Et moi, je me retrouve dans les bidonvilles de Lima, je sors de la voiture, et je vois avec surprise que tous les gens me regardent avec effarement. Bon, on continue, et donc on mange avec les Péruviens noirs, etc., etc. Et à un moment donné, à la fin de repas, je me retrouve seul avec la sœur de Lucho. Il me dit, tu sais quelle est la surprise de la journée? Je dis non. Mais si tu sois un blanc. Nous tous ici, on est persuadés que c'était un noir qui avait fait tout ça. Et en fait, quand j'ai découvert à ce moment-là, consciemment, qu'en fin de compte, je n'avais jamais, dans cette aventure, depuis le début, pensé à la couleur de la peau ou la différence culturelle. Parce que tous ces gens-là, pour moi, c'était des parents.
Oui. Mais ça, c'est intéressant parce qu'on parlait, à la première émission, je crois, on a parlé du racisme. Il y a un racisme générique, primitif, primaire, archaïque, etc. Et là, par exemple, la réaction de Lucho qui se trouve tout à coup précipité dans ses origines, mais les origines de ses ancêtres, et qui, du coup, arrive à dire « je ne suis pas noir », parce que ça le renvoie sûrement à quelque chose qui est tellement loin, tellement lointain, et en même temps qui est quand même important, qui l'ancre un petit peu dans son histoire. Et en même temps, cette réflexion qu'après, on pense qu'un blanc qui est super copain, qui fait des choses extraordinaires, ça ne peut pas être un blanc. Enfin, on est un peu toujours dans cette ambiguïté, quelque part, noir-blanc, qu'on n'arrête pas de croiser quand on est là-bas, et même quand on est super bien intégré, etc. On voit bien qu'il y a des moments où il y a comme ça des variations. Ça me fait penser d'ailleurs à des touches de piano, quoi, noir-blanc, etc. Il y a quand même toujours un peu ces alternances-là. Dans cette histoire-là, je trouve que c'est exemplaire aussi.
Mais par contre, honnêtement, moi, je ne l'ai pas vu parce que je ne l'ai pas compris. Parce que pour moi, c'était mes parentés.
Oui, mais parce que quelque part, le fait de pouvoir rentrer, alors je peux un petit peu en parler quand même, le fait de rentrer à ce point-là, c'est vrai qu'on se dépouille complètement de son moi-peau, comme dirait Aurélie, mon maître, me disait en yeux. C'est-à-dire qu'à un moment, nous, on n'est plus du tout là-dedans. Mais il n'empêche que les autres, de par leur quotidien, de par leur pratique, etc., sont pas forcément... Ils vivent les choses naturellement avec la personne qui la vit naturellement d'une autre couleur. Mais une fois, par moment, le fait d'être confronté à des situations réelles, ça renvoie à cette histoire de couleur. Et c'est là, moi, que j'interprète, parce que l'autre jour, j'ai vu ce type extraordinaire, ce bel homme, etc., tout super à l'aise, mais en même temps, à un moment, confronté à... Enfin, pas... Oui, confronté, en tout cas, au cœur de ses pratiques et de ses égaux en couleur, il y a un décalage énorme entre l'historique qui est devenu le sien et l'histoire de ces gens qui sont restés sur la terre des ancêtres. Je pense qu'il y a quelque chose là. Et que pour des gens qui dépassent ça, forcément, à un moment, il n'y a pas le couleur. Enfin, moi, je peux en parler parce que c'est quelque chose qui m'arrive couramment. Où moi, je parle plus du tout de couleur. Et d'ailleurs, Patrick, je pense que Patrick l'expérimente aussi. C'est qu'à un moment, quand on rentre quelque part, moi, ça m'est arrivé de rentrer dans des endroits où il n'y avait jamais eu de blanc qui était rentré. Au départ, il y a les regards des gens. Et le fait que soi-même, on se sente pas différent, où on ne soit pas important, ça devient pas important pour les autres. On sent à un moment qu'il y a une espèce de nature. Et ça, c'est nous qui sommes porteurs.
Oui,
voilà.
Oui.
Comme peut-être un noir, quelque part, peut se sentir blanc aussi, ou pas du tout de couleur, quoi. Incolore. Oui.
Mais la conclusion de l'histoire, c'est simplement qu'effectivement, une fois de plus, je pensais faire de l'ethnographie et la relation humaine, et je fais de l'histoire.
Voilà, de l'histoire, exactement. Non, mais c'est ça. Mais l'ethnographie, bon, après tout, on s'en fiche un peu quand on vit en harmonie avec les gens. Au fond, on se dit, après tout, l'ethnologie, bon,
c'est pas pour nous. En tout cas, c'est une belle histoire qu'on a eue là, Marie-Claude. Merci, Patrick.
C'était passionnant parce qu'il y a plein de choses que j'ignorais quand même. Hein. Il ne m'avait pas tout raconté.
J'espère bien. Et là encore, Patrick, c'est vous qui avez choisi cette fin musicale.
Voilà, alors là, j'ai remis du djembé pour retrouver un peu sur le côté africain.
Ça va faire du bien.
Voilà, et c'est, en fin de compte, un travail qui est quand même très élaboré au niveau du djembé, c'est Sungalo Koulibaly. Voilà, donc c'est un malien, donc c'est un petit peu décalé, mais voilà, c'est pour redonner ce côté-là. Parce qu'effectivement, toutes ces cultures sont en train de disparaître par le bulldozer culturel, mais c'est autre chose, c'est un autre métissage qui réapparaît, pourquoi pas.
Voilà, merci Patrick, merci beaucoup en tout cas.
Oui, merci à tous les deux et au revoir.
Au revoir Guylaine, merci William, au revoir.
À bientôt.